Bonjour et bonne année. Dans les lignes qui suivent, il va être question d'un personnage dont le nom s'appelle L-E-Y-C-O-D-E, accent aigu, C-C-D-I, O-N-C. Monsieur Lécaudesson. Monsieur Lécaudesson, compositeur de musique, songeait, amer, devant son papier, que l'école futuriste d'hier était devenue l'école actuelle. À présent, l'imitation de tous les cris, gloussements, bruits, tonitruments possibles formaient l'usage musical courant. Le répertoire de l'opéra comprenait Zimzuich Trukra Tapum, drame lyrico-dynamital en deux écroulements et quatre explosions, et Patapifol Attaque, qu'est-ce qui me fait, époque et épopée musicale en trois charges et quatre assauts, violopillage. Alors, comme c'est bruit et musique, on va quand même éteindre les portables. Merci. L'opéra comique joué régulièrement, Riditi Pitoui, gazouillis en deux actes et classique, était désormais le ballet des borborygmes. C'est pourquoi Lécaudesson méditait, mélancolique. Soudain, il pétarada, jarnicoton, puisqu'on a lyrisé tous les bruits de la nature, depuis le murmure de l'ouragan jusqu'au beuglement du cri-cri, je vais mettre, moi, ces silences en musique, le silencisme. Voilà la musique de l'avenir. Lécaudesson accumula pause et soupir sur point d'orgue et termina en moins d'un an une symphonie silenciste qu'il intitula Motus. Le tout Paris, très intrigué, se rua au concert Chapiteau pour savourer la symphonie. 200 musiciens dans la fosse accordaient leurs instruments. Le chef d'orchestre, seul visible, leva sa baguette et battit la mesure. Les musiciens se turent avec beaucoup d'ensemble. Religieuse était la tension. On entendait sourire les mouches. L'impression fut excellente. Enfin, l'on goûtait de la musique discrète, reposante, sans discordance. Le chef d'orchestre en sueur s'arrêta, des ovations jaillirent, et les critiques exaltèrent à l'envi la simplicité d'une technique où pas une note n'était de trop. Le silencisme était fondé. Il connut une heureuse fortune, étant sympathique même aux mélophobes, accessible aux innombrables compositeurs amateurs et permettant aux sourds sans emploi de s'adonner avec brio à la critique musicale. Henri Falck, il s'agit d'un extrait de « La musique d'après-demain, conte futuriste » paru dans Le Journal du 15 juin 1913, c'est-à-dire il y a exactement un siècle. Bien sûr, d'une certaine façon, c'est une blague de potache, et à peu près seulement une blague de potache, une époque qui est à peu près contemporaine de celle de Jarry. Et pourtant, cette blague de potache a connu une certaine fortune chez des compositeurs apparemment sérieux, Ligeti notamment. J'ai parlé précédemment, lors d'une séance de la conférence sur l'avenir de la musique de Ligeti, qui était entièrement silencieuse. On pourrait aussi citer ces trois bagatelles pour un pianiste, presque totalement silencieuses. Bref, l'idée de une musique qui serait pur silence a effectivement existé sous différentes formes, plus ou moins sérieuses. À quoi ce long extrait fait-il référence? Je pense qu'il fait essentiellement référence au futurisme de Luigi Russolo, qui est un compositeur né en 1885 et mort en 1947, probablement le plus influent des compositeurs futuristes. Russolo exige une musique adaptée au bruit et au rythme des machines, un art strident, en adéquation avec la puissance dynamique de la vie moderne. Il faut peut-être en rappeler le contexte. Faites un exercice d'imagination et dites-vous qu'avant l'ère industrielle, les bruits étaient rares. L'environnement sonore était évidemment beaucoup moins exposé aux bruits et parmi ceux-ci, quelques-uns seulement étaient intégrés à la musique. L'orage, la tempête, plusieurs exemples assez célèbres, les glas, les volets de cloches, le brouhaha des foires, des marchés, voici quelques exemples. Mais l'exode rural, l'urbanisation va considérablement changer la donne. C'est vrai que Russolo publie son manifeste « L'arte dei rumori », l'art des bruits, en 1913. Il veut une esthétisation de la guerre, une esthétisation des obus. Il dit qu'on en a assez de la musique instrumentale. Il veut les avions, il veut les moteurs, la guerre, tout un vacarme. Mais Il veut néanmoins se contenter des instruments acoustiques, simplement parce que l'amplification électrique apparaît dans les années 1920 seulement. Avec l'aide d'Ugo Piatti, Russolo, toujours en 1913, va mettre au point des instruments mécaniques appelés intonarumori, c'est-à-dire bruiteurs, on peut dire. On trouve ainsi le siffleur, le renacleur, le glougouteur, etc. Dans Arte dei rumori, Russolo écrit par exemple « Nous nous approchons du son-bruit. Cette évolution de la musique est parallèle à la multiplication grandissante des machines. Notre oreille réclame sans cesse de plus vastes sensations acoustiques. D'autre part, le son musical est trop restreint quant à la variété et à la qualité de ses timbres. Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir la variété infinie des sons-bruits. Sans oublier les bruits absolument nouveaux de la guerre moderne, nous voulons entonner et régler harmoniquement et rythmiquement ces bruits très variés. Il ne s'agit pas de détruire les mouvements et les vibrations irrégulières de temps et d'intensité de ces bruits, mais simplement fixer le degré ou ton de la vibration prédominante. Quelque chose qui apparaît à la fois comme assez prophétique et comme légèrement ésotérique. On ne sait pas trop ce qu'il entend par son bruit. On ne sait pas exactement ce qu'il entend par fixer le degré ou ton de la vibration prédominante. On a l'impression qu'il y a une chose qui est à la fois de l'ordre du poétique et du prophétique, d'une part, et puis quelque chose qui se voudrait plus proprement scientifique. En tout cas, c'est l'occasion pour lui de développer tout un vocabulaire où il est question de murmures, de marmonnements, de grommellements, de bruissements, de glouglou, de grognement. J'en citerai d'autres par la suite. Alors, on considère en général que le XXe siècle musical est marqué par deux révolutions majeures. L'apparition de l'atonalisme, d'une part, dont il a été question notamment à l'occasion de la conférence de Jérôme Ducrot, que j'avais invité à mon séminaire la toute dernière séance de l'année dernière. Et puis, d'autre part, une attention accrue portée au timbre et notamment l'intégration du bruit. Le mouvement futuriste n'en est qu'un aspect, sans doute un peu anecdotique, et nous aurons plusieurs fois l'occasion d'y revenir. Les étapes suivantes de cette intégration du bruit seront, grâce à l'apparition de nouveaux moyens techniques, la musique concrète, la musique électronique, qui toutes deux entendent explorer la musicalité inhérente au bruit. Et par la suite, cette idée d'une musicalité inhérente au bruit a eu des conséquences sur certaines compositions de musique instrumentale, des compositions ne faisant pas appel à l'électronique. On le verra en particulier avec l'exemple de Ligeti. Et puis il y aurait une troisième étape, dont il sera peu question ici, qui a consisté à explorer la part de bruit incluse dans le son musical, c'est-à-dire dans la musique elle-même. Je vais tenter une définition en me reportant d'abord à l'étymologie. Quelques hypothèses. Le mot « bruit » vient du verbe « bruire » qui veut dire « faire entendre un son, un murmure confus ».« Bruire » vient du latin « brugitum », participe passé du latin populaire « brugere » qui a pour traduction « il brame ». Dans ce cas, le verbe « bramer » est le cri du cerf, du chevreuil ou du daim, et « brugere » serait issu à la fois de « rugire », « rugir » et de « bragere », « braire ». Alors, Littré, à propos de bruit, parle d'un mélange confus de sons. Il en donne une illustration avec Esther de Racine. Quand l'épouse du roi vient sauver son peuple de l'extermination, il est dit « Mes sœurs, j'entends du bruit dans la chambre prochaine. » On a une succession d'acceptions qui sont données par Littré. « Dire » au pluriel, « nouvelles qui circulent dans le monde », mais « bruit » désigne également « réputation ». Un mouvement séditieux, une querelle, un éclat. Le Petit Larousse, dans son édition de 2006, va mentionner en premier lieu, pour bruit, l'ensemble des sons produits par vibration. Il va mentionner des bruits de pas, des bruits de vagues. C'est curieux, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de bruit de flûte, de bruit de violoncelle, par exemple? On voit que les exemples donnés concernent des sons qui ne sont ni linguistiques, ni musicaux. Et de fait, l'usage courant en français veut que l'on désigne par bruit ni de la musique entendue en tant que musique. Il peut s'agir évidemment de musique que vous entendrez au loin, par exemple, mêlée à d'autres sons. Dans ce cas-là, il peut éventuellement s'agir de bruit, mais si c'est de la musique entendue en tant que musique, alors normalement, vous ne la désignerez pas comme bruit. De même, il peut s'agir d'un bruit quand il s'agit d'une chose qui ne sera pas de la parole entendue comme parole. Même chose, si vous entendez au loin, éventuellement légèrement déformée, une parole que vous ne comprenez pas ou qui n'est simplement pas entendue comme parole, alors, en règle générale, vous ne l'appellerez pas parole, mais éventuellement bruit. Cette distinction nous rappelle d'ailleurs la séparation des tâches qui est faite dans le cinéma, notamment en France. Vous allez avoir piste des dialogues, piste de la musique et piste des effets sonores, c'est-à-dire piste des bruits, piste des bruitages. On voit qu'en général, les dictionnaires vont répertorier l'usage par élimination. Il va s'agir de non-parole, de non-musique, ce qui va faire du bruit une catégorie par exclusion et probablement, d'une certaine façon, une catégorie fourre-tout, une catégorie un peu poubelle. Alors, je voudrais vous renvoyer ici à un passage de l'altération musicale de Bernard Sèvres, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici lors de la première séance de mon séminaire. Bernard Sèvres fait la remarque suivante. « Si l'homme inventa la musique en imitant le chant des oiseaux, encore fallut-il qu'il entendît préalablement le chant des oiseaux comme chant et non comme trace sonore trahissant l'animal à capturer ou comme phénomène éthologique à étudier. Refus de la prise, matérielle ou cognitive, saisie du son dans sa pure sensorialité sont les conditions du passage à la musique. » Et il ajoute « Ce passage est proprement humain, la promotion du bruit comme tel, Luigi Russolo, ne fait pas exception. Le bruitisme est nécessairement un humanisme au sens au moins où seul l'homme peut entendre un bruit comme bruit. » Je pense que c'est une remarque très profonde qu'il va préciser encore. Il faut même dire que le bruit entendu comme bruit n'est plus un bruit, mais un son, le bruit étant précisément ce qui ne saurait faire l'objet d'aucune attention thématique ou élective. Le bruit est toujours en dehors de la conscience, il est ce qui gêne, ce qui s'impose de force, c'est l'en-dehors par excellence. C'est à la page 171 de son livre. Si l'on revient au cas de Russolo et du futurisme, on remarque qu'il y a toujours dans la revendication bruitiste une contradiction interne. Parce que le bruitisme se définit comme étant un en-dehors de la musique, Bernard Sèvres dit l'en-dehors par excellence, et en se définissant en opposition par rapport à une catégorie, le bruitisme en vient paradoxalement à entériner la norme, à entériner la catégorie en question. C'est un hommage paradoxal qui est rendu à la musique qui exclurait le bruit, à la musique non bruiteuse, non bruitiste. Alors si l'on pose un peu plus loin notre caractérisation du bruit, on peut noter que l'on trouve dans la définition du Petit Larousse un deuxième sens qui serait ensemble des sons sans harmonie, au pluriel. Et vont être proposées les expressions suivantes, lutter contre le bruit, faire trop de bruit. La langue française possède le mot son qui est d'une certaine façon intraduisible en anglais. On va dire un bruit de pas, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec l'harmonie. De même, si vous prenez la définition du grand Robert, par exemple le grand Robert en 6 volumes, vous allez avoir 1. Sensation perçue par l'oreille, 2. Retentissement, éclat, toujours les mêmes, et puis 3. Phénomène acoustique avec vibration non périodique. Et c'est un fait que l'oreille va différencier des sons qui font entendre des hauteurs et des sons qui font entendre autre chose que des hauteurs. Je l'ai rappelé, le XXe siècle est marqué par 2 transformations majeures, apparition de l'atonalisme et intégration du bruit. On se rend compte en fait que l'on est allé vers une spécification croissante des paramètres qui composent le son. Alors, quels sont-ils? Vous avez d'abord la hauteur, les notes, on pourrait dire, pour lesquelles la notation, précisément, ne pose pas vraiment de problème. Vous pouvez avoir des difficultés pour noter une hauteur dans un système qui ne sera pas tempéré, par exemple, mais vous pouvez toujours vous en sortir d'une certaine façon, quitte à utiliser les mathématiques pour définir un certain nombre de hertz, par exemple. Donc, la hauteur, d'une certaine façon, pas vraiment de problème. La durée, c'est un peu plus problématique déjà. Sachez que dans les musiques anciennes, on note des rapports de durée plutôt que des durées. Souvenez-vous aussi que Beethoven note des indications métronomiques, mais qu'elles ne sont pas toujours respectées par les interprètes. En tout cas, c'est seulement à partir de lui que l'on va avoir tendance à chercher à noter de façon assez précise les durées. Pour l'intensité, la notation est encore plus empirique. Très souvent, on se contente d'un plus fort, moins fort, et la gamme que vous allez avoir des intensités possibles entre le pianissimo et le fortissimo, par exemple, tout cela va être assez relatif à l'instrument, et c'est une chose qui va être évidemment assez tributaire du lieu dans lequel la musique est donnée à entendre. C'est différent si c'est en plein air, c'est différent si c'est en coulisses. Ensuite, pour ce paramètre apparemment résiduel que le timbre, les difficultés d'une notation appropriée sont plus grandes encore. Alors, dernière idée autour de cette tentative de définition du bruit. On dit parfois que le bruit est un son indésirable. C'était un petit peu la dernière suggestion dans l'acception qui était donnée par le Robert. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Si le son est une vibration de l'air ou de tout milieu matériel élastique, la sensibilité au son fait de tous les êtres humains finalement la possibilité de connaître un environnement et d'obtenir un moyen de communication par la parole et par la musique. Et sauf dans un certain nombre de situations assez rares qui vont être des expériences de privation sensorielle, j'y viendrai, la plupart des gens vont considérer comme indésirables les sons qui s'opposent à ces deux objectifs, connaissance de l'environnement, moyen de communication, et vont l'appeler bruit. Mais on se rend compte de la forte part de subjectivité que cela implique. Michel Chion, qui est un grand théoricien du son, du bruit, et qui est aussi un compositeur de musique concrète, considère qu'il y a comme une zone de dégradé entre le bruit et la musique, dont la plupart des compositeurs classiques avaient conscience et qu'ils avaient tendance à utiliser intuitivement. Alors, un exemple que l'on peut donner, ce serait par exemple dans le 20e concerto de Mozart, premier mouvement, concerto en ré mineur, où vous avez les cordes qui jouent au début avec un accompagnement. Vous avez l'accompagnement des cordes aiguës, violon 1, violon 2, alto, dans une espèce de halètement. Et puis, en dessous, vous avez violoncelle et contrebasse qui vont faire... Alors, je les joue intentionnellement plus fort que ce qu'il faudrait, ce n'était piano. Je pense, et c'est l'idée de Michel Chion, qu'il y a dans ce joué par un seul coup d'archet, au violoncelle et au contrebasse, dans un registre qui est assez grave, quelque chose d'un peu bruiteux, quelque chose de cette limite assez incertaine, cette zone de dégradé entre musique et bruit. Alors, quantité de compositeurs vont essayer d'explorer cette zone médiane entre bruit et musique. On pourrait citer évidemment Berlioz, l'un des compositeurs au 19e siècle qui s'est le plus intéressé à des questions d'orchestration, il est l'auteur d'ailleurs d'un traité d'orchestration, et le plus à la façon d'intégrer le bruit en musique. Mais je voudrais vous citer un exemple plus tardif, c'est le début de la deuxième partie de L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, qui va être très prochainement d'ailleurs à l'Opéra de Paris, où vous avez affaire à un chœur de Rainette. Alors qu'est-ce que ça donne? Je vous fais écouter ce début. ce début. Alors, on a quelque chose avec ces accords parallèles aux cordes, presque creux, fantomatiques, qui campent un décor sonore, et puis, en superposition, les bruits de la nature, avec chants d'oiseaux, répétitions, pour caractériser ces chants d'oiseaux. D'ailleurs, songez que quelques années auparavant, dans Daphnis et Chloé, si vous vous souvenez, deuxième partie de Daphnis et Chloé, le lever du jour, vous avez également des chants d'oiseaux, avec des pépiments à la flûte, au piccolo, ou au violon solo en harmonique. Ici, on a affaire à un exemple de musique nocturne, comme chez Bartok, par exemple, qui n'en est certainement pas l'inventeur, mais qui les a, on va dire, thématisés, sinon systématisés. Je voudrais vous donner à entendre un autre exemple, un peu dans le même ordre d'idées, qui commence également par une nuit noire. C'est avec Strauss et le début de la symphonie alpestre. Vous allez voir, il y a là quelque chose de très bruiteux, avec comme un cluster diatonique, qu'est-ce à dire ? Alors, ce début est noté avec une armature, et on est en si bémol mineur, c'est noté lento, je vais le jouer un peu plus vite que ce qui est écrit. Vous avez un basson qui va faire entendre une gamme mélodique descendante. Jusqu'à sa note la plus grave, qui est celle-ci. Toutes les notes sont données à entendre, il faut un certain souffle pour bien le jouer, et au fur et à mesure qu'elles sont entendues, le tout étant d'ailleurs sur une pédale de corps, sur si, vous allez avoir les cordes fortement divisées qui vont faire entendre ces tenues. C'est-à-dire que vous avez cette subdivision assez ordinaire, en orchestration, qui est cette séparation entre ce qui est de l'ordre de l'attaque, qui est confié ici à l'instrument, et la résonance. La résonance, ce sont les cordes qui vont, à tour de rôle, la porter. Pardon. Et donc, vous allez avoir toutes ces notes qui vont former comme une espèce de tapis sonore. Sur ce tapis sonore, va émerger très silencieusement, presque de façon estompée, un choral, lui-même assez fantomatique, qui est confié au cuivre. Et puis, petit à petit, le mouvement va s'animer avec notamment les contrebasses, divisées en quatre. Certaines qui vont faire entendre, puisque pour ceux d'entre vous qui le savent, les contrebasses sont accordées par quarte, contrairement aux autres instruments à cordes frottées qui sont accordés par quinte. Et elles vont utiliser leur quarte pour faire entendre quelque chose qui va être du l'ordre de... Pour l'une et pour l'autre, presque symétrique. Le tout dans ce cluster diatonique paradoxal qui est confié aux cordes. Alors, l'effet, c'est vraiment celui d'un brouillage et d'un brouillard dont émerge très progressivement quelque chose qui n'est d'abord pas du tout thématique, c'est une musique presque totalement athématique, assez singulière de ce point de vue, mais quelque chose d'assez bruiteux. Alors qu'est-ce que ça donne ? Fantomatique au cuivre, sur des accords parfaits, qui s'enchaînent de façon parfois peu conventionnelle. l'oreille à l'extrême grave dans le registre. Vous entendez le grondement des contrebasses. De cette symphonie alpestre qui est un chef-d'œuvre absolu. Par quel moyen est-ce qu'on a réussi à intégrer le bruiteux dans le son des instruments eux-mêmes? C'est une chose qui s'est fait très progressivement dans l'histoire de la musique. On a intégré la percussion avec ses composantes de bruit blanc. Ça a pu passer notamment par l'exploration du registre grave, voire extrême grave. Alors c'est une chose que vous voyez de temps en temps avec l'exemple du piano. Si je suis au piano, avec ou sans pédale, mais ce sera peut-être plus parlant avec pédale, si je suis vraiment dans le grave, parfois, les hauteurs des notes sont difficiles à percevoir. On perçoit plutôt quelque chose qui est vraiment à la frontière entre bruit et musique. Mais vous pouvez également jouer dans les cordes du piano. Je ne m'en prive pas quand j'improvise, quand j'accompagne un film muet. Ça peut donner quelque chose comme ça. Bloquer les cordes ou jouer dans les cordes. Toutes sortes de techniques qui, encore une fois, vont avoir tendance à rendre à peu près poreuse la frontière entre bruit et musique. Et cette exploration de l'extrême grave, autre exemple avec les contrebasses du début de cette symphonie alpestre, vous pouvez la transposer à tous les instruments, c'est pas simplement les instruments à cordes frappées comme le piano, qui est aussi un clavier, c'est pas simplement les cordes frottées comme les contrebasses, mais pour tous les instruments, le fait d'explorer l'extrême grave va être une façon d'aller du côté du bruiteux. Et puis dans les cordes, vous allez avoir divers modes de jeu qui sont ignorés de la technique traditionnelle. Alors, citons à nouveau l'intuition de Russolo, qui était en son temps exprimé de façon assez provocatrice, car une des raisons qui m'a le plus poussé à élargir le champ des timbres orchestraux en puisant dans les bruits a été précisément la fatigue éprouvée par notre oreille à force d'entendre les timbres désormais trop ordinaires de l'orchestre et la presque impossibilité que l'on rencontre, même chez les compositeurs les plus modernes et dynamiques, à créer de nouvelles combinaisons avec les timbres trop peu nombreux et vieux que les orchestres ordinaires peuvent offrir. Reste que ces orchestres ordinaires ont pu offrir certains modes de jeu qui étaient par exemple ce qu'on appelle le Pidz Bartok, qui consiste à faire entendre un bruit de percussion en même temps que l'on joue son pizzicato, tandis que la corde va avoir tendance à rebondir sur le manche de l'instrument, le jeu sous le ponticello, c'est-à-dire sur le chevalet de l'instrument, qui va rendre plus métallique le son de la corde, Con Legno avec le bois de l'archer, quelque chose de plus étrange que le jeu dit ordinario, ordinaire, le Flatterzunge pour les vents, les bois et surtout les cuivres, pour lesquels le Flatterzunge fait merveille, qui va consister à faire une espèce de R polonais dans l'instrument. Et puis, pour les bois, par exemple, des jeux multiphoniques qui vont avoir une attaque et une résonance un peu particulière. Et il peut en résulter des atmosphères de mystère, d'inquiétude parfois, de violence. Alors, d'autres compositeurs après Varèse vont explorer ce type de mode de jeu et plus généralement vont se lancer dans une exploration du son. Encore une fois, on présente le XXe siècle comme le siècle de l'exploration du son, du timbre, et probablement de l'exploration du bruit au sein de la musique. Les noms importants, ce serait Varèse, compositeur qui a peu écrit. Sa musique tient probablement dans deux CD, à peu près deux heures de musique, mais qui est allé très loin dans cette exploration-là et qui est devenu la figure tutélaire des tenants de la musique concrète, de la musique électronique, et puis un peu plus tard, au début des années 70, de l'école spectrale. Varèse qui mêle dans sa musique des titres poétiques ou ésotériques, Arcana, Équatorial, Amérique par exemple, et puis des titres à prétention scientifique, Hyperprisme, Intégral, Ionisation, qui est quelqu'un qui est fasciné par le progrès et qui se livre un peu comme Rousseau à des prophéties, parfois assez péremptoires, mais souvent très étonnantes. Un autre compositeur, c'est Chelsea, compositeur italien, qui à partir des années 50 va explorer comme ça le son, en n'hésitant pas à imaginer des études de son qui sont sur une seule note en musique, mais explorées de plusieurs façons différentes. Ligeti, sur lequel on va revenir, l'école spectrale dont j'ai déjà un peu parlé, hein, qui sont ces compositeurs français qui, à partir du début des années 70, ont voulu mettre en avant les possibilités du son en tant que tel, s'inspirant à la fois de Debussy, de façon lointaine, de Varèse, de Chelsea, de Ligeti, plus proche d'eux. Mais je voudrais aussi citer certaines musiques populaires, notamment à la même époque, au début des années 70, à une époque où on peut dire que l'interpénétration des musiques populaires et de certaines musiques savantes va avoir tendance, notamment du côté des musiques électroniques, à favoriser des textures qui sortent parfois de l'ordinaire. Il y a notamment un groupe, qui est le groupe allemand Kraftwerk, créé par Ralph Hütter et Florent Schneider. Au début, ces compositeurs vont avoir tendance à utiliser des sons assez pauvres en texture, un peu incolores, mais c'était assumé. Ils voulaient créer une forme d'esthétique à partir de là, et ils ont contribué à transformer l'histoire de la musique électronique en la rendant accessible au grand public. Et après quelques années consacrées à explorer des sons répétitifs de façon assez expérimentale, ils connaissent le succès mondial en quatre albums, Autobahn, 1974, avec ses percussions de klaxons, Radioactivity, Trans-Europe Express, The Man Machine, qui est célèbre pour son morceau The Robots, utilisation systématique de boîtes à rythme, de synthétiseurs et de vocodeurs, c'est-à-dire de codeurs de voix, le groupe Kraftwerk est passé d'un rock progressif planant ou ambiant à un rock industriel, saccadé, mécanisé. La New Wave et la musique techno leur sont grandement redevables. Et par ailleurs, les deux fondateurs, Hütter et Schneider, ont exercé un strict contrôle sur leur image, ils ont accordé très peu d'entretien et leurs concerts étaient conçus comme des performances artistiques. Je les cite d'abord pour ce va-et-vient entre musique populaire et musique savante, et ensuite parce que ce passage, on va dire, d'un rock progressif planant, ambiant, à un rock industriel saccadé et mécanisé, me fait penser, mutatis mutandis, chez Ligeti, au passage du clouds au clocks. Je ne suis pas du tout sûr que Ligeti connaissait Kraftwerk, ni que Kraftwerk connaissait Ligeti, mais je trouve que de façon à peu près simultanée d'ailleurs dans le temps, début des années 70, le parallèle mérite d'être mentionné. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a va-et-vient entre musique populaire et musique savante à cette époque-là? Il faut savoir que les deux compositeurs à l'origine de la musique répétitive, Terry Riley et Steve Reich, se sont beaucoup inspirés des musiques populaires de leur temps ou immédiatement antérieures, mais que, un peu après, Stockhausen et Pierre Henry sont devenus comme des idoles de la jeune scène électro. Par ailleurs, l'utilisation des klaxons me fait penser à celle qu'en fera Ligeti dans Le Grand Macabre. Vous avez toute une polyphonie de klaxons à un moment. Et puis, ces boîtes à rythme me rappellent aussi chez lui un certain goût pour les machines, voire pour les robots avec The Robots. Alors, dans le cas de Ligeti, j'ai déjà évoqué sa participation au happening du groupe Fluxus. J'ai aussi mentionné brièvement son passage par le studio de musique électronique de Cologne. Tout en participant activement aux débats théoriques et pratiques qui font le quotidien du studio, Ligeti va affiner sa connaissance de la musique sérielle et de la musique électronique, qui va être désormais vécue de l'intérieur. Il fait la connaissance du compositeur Koenig, et sous l'influence positif de sa collaboration avec Koenig dans Essay, écrit E2SAY, il compose en 1957 sa première pièce de musique électronique, Glissandi, qui lui offre l'occasion de se libérer des paramètres habituels de la composition et de toute contrainte instrumentale, métrique ou rythmique. Mais à l'époque, sa maîtrise technique manque encore d'assurance et Ligeti considère lui-même Glissandi comme une sorte d'exercice de doigté et la deuxième tentative du genre Articulation, 1958, sera plus aboutie. Alors, de quoi s'agit-il avec Articulation, deuxième pièce de musique électronique ? On voit que Ligeti essaye de s'adapter à ce nouveau médium électronique et le lier à ses propres préoccupations musicales, dont on a vu qu'elles étaient nées bien avant qu'il n'entre au studio de Cologne. Quelles sont ses préoccupations ? C'est la question de la texture, de l'immobilité liée au mouvement et du langage. Citons à nouveau Rousselot, qui avait lui aussi perçu le profit que l'on pouvait tirer d'une exploration un peu innovante des questions de langage. Les recherches des influences que la musique a sur le langage, sur l'intonation de la voix, sur les sons qui composent les voyelles et les variations de ces sons selon le mode et le ton ont connu ces derniers temps un grand développement grâce surtout aux savants italiens. Ligeti a d'ailleurs rêvé d'une œuvre vocale fondée sur un langage imaginaire dès ses années hongroises, c'est-à-dire avant son exil de 1956. Et comme la relation entre phonétique et musique était un sujet déjà très à la mode au sein de l'avant-garde, Stockhausen le pousse à en faire l'expérience par le biais de l'électronique, s'inspirant alors des réflexions et recherches d'un professeur très influent qui était Werner Meyer Eppler, linguiste de renom, mais aussi spécialiste de physique et pianiste amateur. L'objectif de Ligeti va être de recréer artificiellement par les sons électroniques la prosodie langage humain imaginaire, et il va utiliser pour cela une technique mixte, aussi bien sérielle qu'aléatoire. Le résultat est une œuvre de moins de 4 minutes, qui se différencie de l'habituelle production studio, d'une part par une forme de légèreté de ton parfaitement assumée, et d'autre part par sa portée métaphorique audacieuse, puisqu'elle va quitter le champ d'abstraction stricte qui était prôné par les puristes de la musique électronique. Ligeti manifeste à cet égard, après la fugace concession à l'abstraction pure que pouvait constituer Glissandi, une position affinée, je le cite, « J'éprouve une aversion certaine pour tout ce qui s'affiche comme programmatique et illustratif, mais cela ne veut pas dire que je m'oppose à l'idée que la musique puisse évoquer des associations. Au contraire, les sons et la cohérence musicale suscite toujours en moi des idées d'harmonie et de couleur, de formes visibles et reconnaissables, et vice-versa, je mets constamment en lien la couleur, la forme, la texture et les concepts abstraits avec les idées musicales. Ceci explique la présence considérable d'éléments non musicaux dans mes compositions, chants et masses sonores qui déferlent ensemble ou alternent ou se pénètrent les uns les autres, toiles suspendues qui se déchirent ou bien s'en mêlent, substances humides, visqueuses, spongieuse, fibreuse, sèche, cassante, granuleuse et compacte, effilure, brèves éclosions, débris et traces de toutes sortes, édifices imaginaires, labyrinthes, inscriptions, textes, dialogues, insectes, états, faits, coalescence, transformation, catastrophe, délabrement, disparition, tels sont les éléments qui composent cette musique sans purisme. Auréolé au succès d'Articulation, Ligeti travaille au même moment sur la composition d'une troisième pièce de musique électronique. Elle deviendra l'ébauche d'atmosphère, parce que Ligeti éprouve de façon de plus en plus nette les limites de cette technique quant à l'accomplissement de son idéal, qui serait l'exploration de textures sonores. Ce qui est intéressant, si vous écoutez une pièce comme Articulation, que vous pouvez facilement trouver en disque compact, c'est pour quelqu'un qui est un amateur du nonsense, qui est un amateur de Woody Allen, mais également des Monty Python, également des frères Marx, il est plus marxiste en danse Groucho, dit-il, que Karl, c'est que cela nous fait penser à nous, probablement français, au Shadok et à la musique des Shadok des années 70. Je suis sûr que Shadok, c'est une référence que Ligeti aurait aimé, je ne sais pas du tout s'il les connaissait, mais écoutez cette musique, vous verrez que ces glouglous assez étonnants ont quelque chose des Shadok en train de pomper. En tout cas, ce que va expérimenter Ligeti à un niveau de stimulation jamais connu auparavant, c'est de reconstituer une partition d'orchestre qui avait été perdue lorsqu'il avait dû quitter Budapest précipitamment, et va naître Apparition, sa première œuvre d'envergure pour orchestre et son premier vrai succès en tant que compositeur. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une pièce instrumentale après vous avoir parlé de musique électronique? C'est que les tentatives de Ligeti pour créer une musique de texture s'affranchissent de la question du médium musical, qu'il s'agisse de micro-polyphonie, c'est-à-dire d'une polyphonie extrêmement intriquée, d'une musique de trame finalement, ou de musique électronique. Dans les deux cas, ce que veut Ligeti, c'est à peu près la même chose. J'ai cité les adjectifs et les substantifs qu'il emploie pour caractériser cette musique, qui sont toujours extrêmement précis et qui donnent une idée assez nette des associations visuelles et tactiles qu'il fait. Sachez que très souvent, quand il est question de bruit, on a affaire à des associations extrasensorielles ou intrasensorielles, c'est-à-dire qu'il est difficile d'imaginer simplement que l'on ait affaire à l'ouïe. En général, d'autres associations sont convoquées. En tout cas, si Ligeti n'innove pas en quittant l'électronique pour revenir à l'orchestre, ce qui est certain, c'est que les impressions acoustiques qu'il va tenter s'apparentent aisément à celles que produit la musique électronique, n'était cette dimension organique et donc sensible qui fait l'absolue différence. Ligeti va d'ailleurs exprimer sa reconnaissance envers ceux qui lui ont permis d'avancer techniquement dans l'élaboration d'un langage qui lui soit propre, je le cite. En 1952-53, j'eus les premières idées d'une musique statique et je me mis à envisager non plus de travailler dans l'ordre mélodique et harmonique, mais à chercher un son neutralisé, quelque chose entre son et bruit. Ces idées, telles que je les réalisais plus tard dans Atmosphère, étaient pour moi presque déjà claires, 11 ans auparavant, mais je ne pouvais pas les réaliser. En outre, elles étaient encore enserrées dans le carcan de la barre de mesure dont je ne pouvais pas encore me détacher. J'écris encore aujourd'hui des mesures, mais seulement dans un but pratique, afin tout simplement de faciliter la direction des pièces. Mais mon détachement de la métrique mesurée résulta en fait de l'emprise immédiate et très importante que Boulez et Stockhausen eurent sur moi. La musique des deux et aussi la rencontre personnelle de Stockhausen et mes premières années à Cologne, je dirais donc. J'ai choisi les possibilités de m'informer sur la musique électronique, de travailler sur ce médium et de retrouver ensuite la musique instrumentale et d'appliquer non pas le résultat sonore de la musique électronique, mais les expériences faites en cours de travail sur le matériau électronique. Alors, avant de vous donner un certain nombre de remarques pour conclure, je voudrais vous faire écouter une pièce que des amis instrumentistes et moi-même avons enregistrée. Alors, ces amis sont Johan Fargeau, pianiste et compositeur, qui était venu lors d'une séance me prêter main forte pour jouer cette pièce à quatre mains, qui est Mirage. Également Arnaud Torette, qui était venu à la toute première séance où il était question de Clocks. Nous avions joué des extraits de Manhattan. Arnaud Torette est à l'alto. Johan Fargeau est à cet instrument assez curieux, typique encore une fois des années 70, décidément on y revient, qui est l'orgue Fender ou Fender Rhodes, que vous entendez de temps en temps dans des vieilles séries, parfois de série B, pour caractériser un certain univers musical, mais qui peut avoir une très belle sonorité, qui sonne à la fois dans son médium, je dirais, comme un marimba, et un peu dans son aigu, plutôt, comme un celesta. Et puis, au saxophone, au pluriel, Raphaël Imbert, improvisateur, compositeur lui-même, qui va, ainsi que nous trois, moi je suis au piano, utiliser les potentialités bruiteuses du son. Alors, il s'agit d'une pièce qui est un lacrymosa, d'après le lacrymosa du Requiem de Mozart. Je vous ai expliqué la transformation que Johan Fargeau, qui est l'auteur, le compositeur de la pièce, lui fait subir, pour faire en sorte, au sacrilège, que cette pièce assez typique de la musique sacrée puisse se prêter, moyennant quelques déhanchements rythmiques et quelques transformations, à une perception comme s'il s'agissait de musique latino-américaine. Là, vous allez entendre ce début, qui est comme une espèce de prélude à la musique proprement dite, où nous voyageons au milieu de certains sons. Donc, on est vraiment à la frontière entre bruit et musique, une fois de plus. Qu'est-ce que cela donne ? Or, Fender ici. Thank you. Hervé Limbert chante dans l'instrument. Alors, en intitulant cette séance bruit et musique, j'ai voulu montrer que le rapport du bruit à la musique n'était pas forcément un rapport d'antagonisme. Le meilleur exemple en serait peut-être, dans la continuité du cours précédent qui était intitulé « Comment accompagner un film muet », la question de la musique et du bruit au cinéma avant 1914, toujours la même époque cruciale, celle de la révolution des bruitistes. Je fais référence à l'ouvrage de Martin Barnier, « Bruit au pluriel, cri, musique de film », les projections avant 1914, où Martin Barnier explique que la musique de film, entre guillemets, n'est pas forcément due à un pianiste improvisateur. Celui-ci peut même parfois éviter de jouer pendant les films, mais quand c'est le cas, l'auteur affirme que ce n'est pas pour couvrir le bruit du projecteur. Ce mythe provient de la période des années 1920, quand les projecteurs fonctionnaient à moteur. Par contre, le pianiste improvisateur a bel et bien existé, comme l'attestent les nombreuses petites annonces et les articles publicitaires. Qu'est-ce à dire ? C'est que, je l'ai mentionné, souvent on invoque une raison naturelle, entre guillemets, qui justifierait l'emploi de la musique, qui serait le bruit désagréable des projecteurs, ce que font des chercheurs aussi différents que le musicien Kurt London, l'historien David Robinson ou l'universitaire Claudia Gordman. Mais, comme le montre Martin Barnier, aucun des articles d'époque avant 1917 ne signale une quelconque gêne des spectateurs vis-à-vis du bruit des projecteurs. L'absence de bruit n'apparaît d'ailleurs pas dans l'argumentaire publicitaire de l'époque pour vanter la qualité des appareils, et je le cite, alors que les annonces signalent très souvent une amélioration du problème des images tremblotantes. Dès les premières projections de films sur une foire, en mai 1896 à Orléans, l'appareil cinétographe est placé dans la voiture d'habitation de Madame Torcé, femme de l'administrateur de ce théâtre. Le projecteur n'est pas dans la baraque foraine, donc il ne peut pas y avoir de gêne. De plus, suite à l'incendie du bazar de la Charité, 1897, et face au danger des lampes oxyéthériques, comme des courts-circuits électriques, le projecteur est rapidement placé dans une cabine. Ainsi isolé, il ne peut guère gêner les spectateurs par son bruit de machine à coudre. Seuls les exploitants les plus pauvres, dans les bars par exemple, continuent de placer un appareil du côté du public, lequel public ne semble pas gêné par le bruit de l'appareil. Chez les forains, hein, souvenez-vous qu'à l'époque, le cinéma muet est plutôt un art qui relève de l'art de la rue, de l'art des forains, plus probablement que du cinéma proprement dit. Chez les forains, les plus petites exploitations ont encore un projecteur proche du public, mais les propriétaires de baraques de moyenne importance construisent une cabine métallique, donc inifugée, placée à l'extérieur de la salle. Et puis, argument imparable, c'est l'argument que développe encore Martin Barnier, je le cite, « Nous avons eu la chance d'écouter de très près un véritable appareil lumière fonctionnant à la vitesse d'à peu près 16 images par seconde. Le bruit produit est très doux, même en se plaçant à côté de la machine. Il reste que la machine doit être bien huilée. Le volume sonore dépend aussi de l'appareil utilisé. Les publicités vantent très vite et jusqu'à 1914. L'absence de trépidation, ce qui délasse les yeux, mais aussi les oreilles. Mais même en cas de tac, 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 un peu fort, à cette époque de la fin du XIXe siècle où triomphe le machinisme, qui eût pris peur en entendant ce ronronnement ? Au milieu du fracas sonore des foires, quand on entend les générateurs d'énergie à vapeur plus que la musique, ou bien les cris de la parade de la baraque voisine, peut-on vraiment identifier le bruit de l'appareil de projection ? Bref, il n'y aurait pas vraiment rivalité entre bruit et musique, il n'y aurait pas une musique qui chercherait à couvrir le bruit à cette époque, comme à d'autres époques. Ce qui me conduit à quelques réflexions, quelques questions que je ne fais qu'aborder et qui mériteraient sans doute d'être développées. D'abord, je pense qu'il y a une angoisse spécifique au son, qu'il n'y a pas dans la vue. La vue, la vision nous apporte des informations et l'audition nous apporte certes des informations, mais ces informations sont plus lacunaires, plus limitées. Et c'est probablement la raison pour laquelle un doute nous saisit lorsque nous entendons certains bruit énigmatique, difficile de parler d'un spectacle énigmatique, d'une image qui serait en tant que telle énigmatique. C'est ce que Michel Sion, théoricien et compositeur de musique concrète que j'ai déjà mentionné, appelle le flou narratif du son acousmatique. Deuxièmement, le son est prioritairement perçu comme un événement, ou plus exactement, les sons sont prioritairement perçus comme des événements. Alors, vous auriez bien un certain nombre de contre-exemples, qui seraient par exemple la chute d'eau, qui est plutôt comme un événement constant, mais la plupart des sons sont des événements, sont événementiels. Et, encore une fois, lorsque l'on se situe du côté du son, on est de l'ordre du discontinu, là où l'image peut être à la fois de l'ordre du continu et du discontinu. Ensuite, il y a la question du causalisme, que je ne fais encore une fois qu'aborder. Qu'est-ce que Michel Sion appelle le causalisme? C'est la croyance que connaître la cause qui produit le son suffirait pour le décrire. Or, si vous percevez le son d'un moteur, vous allez dire qu'il s'agit du son d'un moteur, mais cela ne va pas décrire le son. Que se passe-t-il? Vous avez affaire à une explosion, certains éléments vont tourner, d'autres vont bouger, vous allez avoir une forme de trépidation, de crépitement, et souvent, on s'en tient à une description des sons par référence à la causalité, qui n'est pas tout à fait ce que devrait être une description proprement dite. Se référer à la cause d'un son n'est pas le décrire. Ensuite, je voudrais aborder très brièvement aussi la question d'une démarche médiatiste. La plupart des musiciens en musique savante sont immédiatistes, c'est-à-dire qu'ils vont dénier le fait que le son repose sur un support. C'est finalement l'idéologie du direct. On va avoir tendance à privilégier les concerts retransmis, et cette idéologie immédiatiste, on l'a aussi au concert, où de plus en plus souvent, lors des concerts, les chanteurs sont amplifiés, mais on ne veut pas que soit mentionné le fait que ces chanteurs sont amplifiés dans les programmes. Le monteur, lorsqu'il s'agit d'un enregistrement, n'est pratiquement jamais mentionné non plus. Bref, on ne veut pas que tout ce qui paraît faire écran, en réalité tout ce qui est médiation entre celui qui va produire le son et le résultat sonore sous forme d'enregistrement, on ne veut pas que tout cela soit mentionné, on veut en faire abstraction, faire comme s'il était possible d'en faire abstraction. Ce qui fait que Richter enregistré en pirate avec un enregistrement de très mauvaise qualité, on va s'écriver « Ah, c'est génial !» Mais non, pour moi, c'est assez typique de l'idéologie médiatiste que d'affirmer que parce que on se retrouve dans un cas où on fait abstraction des micros qui enregistrent, on va considérer nécessairement que c'est génial. Je pense que c'est une idéologie, finalement. Et dernier point, je pense que nous avons besoin, un grand besoin de sensorialité et surtout de variation sensorielle. A contrario, songez à Florence Obna, privée de vision pendant 3 mois, et à certaines techniques de torture. Songez aussi à l'évolution que l'on a connue. S'agissant des bruits de la nature, je vous ai dit qu'avant la révolution industrielle, et ce qui en a résulté, les bruits de la nature étaient assez peu nombreux. La nature était relativement pauvre en bruit, j'en ai mentionné certains. Songez symétriquement et par analogie, si on s'intéresse maintenant à la vue, à l'image, et plus exactement à la lumière, que lorsqu'on s'éclairait à la bougie, vous aviez une lumière qui palpitait, et donc quantité de variations sensorielles. Puis, lorsqu'on s'est éclairé au gaz, ça a bougé, mais un tout petit peu seulement. Puis, lorsque vous avez eu affaire à une lumière électrique, vous avez eu affaire à une lumière fixe, et pratiquement plus de variations sensorielles. La lumière électrique n'est pas sensoriellement variée. D'ailleurs, on hésite pas à la laisser allumer, et de même qu'on va laisser parfois la télévision allumée sans la regarder, parce que je pense que l'un des problèmes de la culture actuelle, et là je rejoins encore une fois certaines remarques de Michel Sion, c'est le déséquilibre entre l'extrême richesse sensorielle de notre civilisation et le fait que l'on est souvent verbalement pauvre, comme dépourvu devant tant de sensations. Alors, certains réacs ou certains catastrophistes vont nous dire que la barbarie guette. La barbarie guetterait parce que notre civilisation serait devenue exclusivement une civilisation de l'image, au détriment, par exemple, des sons ou des odeurs. En fait, il me semble plutôt que si la barbarie guettait, ce serait plutôt parce qu'on est possédé par quantité de sensations, par des sensations de toutes sortes, et que l'on a du mal à les nommer, que l'on a du mal à en parler. C'est toute une éducation, c'est tout un vocabulaire parfois passif qu'il faudrait rendre actif pour pouvoir convoquer cet ensemble de sensations. C'est pour ça, un siècle plus tard, les tentatives de Rousselot pour décrire ses claquements, ses craquements, ses grincements, ou encore plus généralement ses stridences, ses bourdonnements, ses explosions, ses frottements. Tout cela nous fait un peu sourire, mais il faut voir que derrière cet apparent bricolage, il y a quelque chose d'assez profond chez Rousselot, qui est le fait qu'au moyen de la langue, du langage, on devrait être capable de dissocier ces expériences sensorielles qui sont souvent extrêmement variées, extrêmement multiples, et il faut s'être penché là-dessus. En fait, on demande rarement aux gens de mobiliser activement leur vocabulaire passif. Or, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de vocabulaire actif, parce que sinon, on risque d'être dans le pur affect, dans l'identification causale, sans pouvoir parler de crépitement. Qu'est-ce que c'est que crépitement ? Ce sont des séries d'impulsions complexes. Et pour cela, il faut se souvenir que la bonne littérature, par exemple, certains romans du 19e ou du 20e siècle, proposent un vocabulaire sensoriel très riche. C'est le cas chez Flaubert, chez Zola, chez Proust. Et aujourd'hui, où beaucoup de cultures, on va avoir tendance à favoriser le vocabulaire abstrait au détriment du vocabulaire concret, ce n'est pas forcément en faveur d'arguments qui vont être plus rationnels, d'une argumentation qui va être plus tranchée, plus marquée, plus juste, mais c'est parfois en tout cas au détriment de la richesse de notre vocabulaire sensoriel. Alors, je me rends compte au cours de cette séance que j'ai abordé les questions de texture, et par là, s'agissant par exemple de Kraftwerk, de rock ambiant, hein, de cotonneux, de nébuleux, tout ce qui est le clouds. Or, c'était une des thématiques abordées lors d'une des premières séances de ces cours. J'ai parlé de tac-tac des machines, de la machine du projectionniste, mais aussi du tic-tac, du bruit de machine, ce qui s'inscrit là tout à fait dans le prolongement de la séance qui a été consacrée aux clocks. On pourrait aussi parler d'accompagnement muet, ça a été un peu le cas, ce qui était le cas également pour ma dernière séance de l'année civile dernière. On peut aussi parler d'improvisation, puisque idéalement l'improvisateur va agir de façon spontanée à la manière de l'artiste qui s'exerce à l'action painting. Et dans l'improvisation, dans son versant improvisation générative, entre guillemets, il s'agit de repousser souvent les limites instrumentales pour explorer des modes de jeu non conventionnels et des limites esthétiques, repousser les frontières entre le beau et le laid, provoquées ou choquées par des sonorités brutistes qui conduisent finalement à reconsidérer certaines des oppositions qu'on pensait absolument certaines, immuables, entre le son et le bruit, entre le beau et le laid. Quant à la question de musique et imposture, l'exemple de Ligeti et de sa conférence silencieuse, Les trois bagatelles, l'exemple du pastiche de Mozart pour le CD Amen que j'ai fait avec mes amis du groupe Contraste. C'est un peu le hasard, mais à l'occasion de cette séance qui est la dernière avant, une toute dernière, où il ne sera absolument pas question de bruit et de musique qui sera consacrée au concerto de Mozart et à leur mouvement lent, de quelques mouvements lents de concerto de Mozart, où je m'intéresserai tout particulièrement au 17e, au 20e, au 23e. Je vous engage à les écouter, à les réécouter d'ici là, mais je me rends compte, et c'est un hasard, qu'au cours de cette séance, j'ai abordé toutes les thématiques qui ont été celles des premières séances de cours et également, d'une certaine façon, la toute première, c'est-à-dire ma leçon inaugurale, qui était « Comment parler de musique ?» Comment parler de musique lorsque la musique se situe effectivement à la frontière entre bruit et musique ? Et comment faire en sorte que notre vocabulaire sensoriel, quand il s'agit de l'ouïe, soit suffisamment poussé ? C'est une des questions à laquelle j'aboutis au terme de cette séance. Je vous remercie. Je vais maintenant, après 2 ou 3 minutes de pause, accueillir Marie-Madeleine Mervanroux, que je vais présenter en tout début de séance. Merci.